Le journal nous est présenté par Valérie Droux.
Le pôle Nord perd trop de glace, 50% de plus que les prévisions l'année dernière. Des glaces rongées par des eaux plus chaudes, de l'air plus doux. Le climatologue Martin Veniston nous expliquera quelles peuvent en être les conséquences. Le Gripen, un achat beaucoup trop incertain, trop de risques techniques, commerciaux, politiques, financiers ou de calendrier, avertit la Commission de sécurité du National, qui recommande néanmoins de poursuivre la procédure. La Suède reste un partenaire fiable.
Journée attendue dans les cantons alpins, c'est en effet aujourd'hui que le Conseil fédéral devrait se prononcer sur l'application de l'initiative Weber. Journée attendue car depuis 5 mois, le secteur de la construction dans les cantons alpins est paralysé par les flous juridiques. Raphaël Grand est allé prendre la température à Nanda. Son reportage dans une vingtaine de minutes dans Intercité. Déployer un câble sous-marin en fibre optique ultra rapide entre Tokyo et Singapour pour faire gagner 3 millisecondes à la transaction des ordres de bourse passés par des ordinateurs. Science-fiction ? Non. Réalité ? Une réalité inquiétante ? Eh bien, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans les temps modernes.
Football, Bâle sera obligé de faire beaucoup mieux la semaine prochaine en Roumanie. Défaite hier soir au Stade Saint-Jacques 2-1 contre Cluj. La participation à la Ligue des Champions est loin d'être assurée. Les glaces du pôle Nord fondent donc plus vite que prévu. Le satellite construit pour étudier l'épaisseur des calottes polaires vient de livrer ses premières données. 900 km3 de glace marine présente durant l'été ont disparu de l'océan Arctique au cours de l'année dernière. C'est 50% plus élevé que la plupart des prévisions envisagées par les scientifiques. Martin Veniston, climatologue, professeur à l'Université de Genève et directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, interrogé par Maureen Mercier.
Les glaces polaires finissent par être grignotées beaucoup plus rapidement qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, à la fois par des eaux plus chaudes qui grignotent par le dessous de la banquise et l'air plus chaud en contact avec cet océan plus chaud qui grignote par-dessus la banquise. Donc vous avez une situation qui a tendance à s'accélérer. Évidemment, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un peu comme les cours de la bourse. Hein.
Il faut s'attendre à quelles conséquences ?
Comme pour l'instant, vous avez encore des surfaces de glace très blanches qui réfléchissent beaucoup d'énergie solaire, qui sont froides, ça module de manière importante le climat de l'ensemble de la planète. Alors si, avec ce rétrécissement de la banquise, vous remplacez cette surface blanche et froide par un océan qui, lui, est beaucoup plus sombre, vous allez au contraire réchauffer de manière accélérée les régions polaires et ce supplément de chaleur dans une des parties du monde importantes pour la régulation du climat va se transmettre au reste du système climatique, malheureusement.
Le choix du Gripen comme avion de combat est trop risqué.
La conclusion du rapport de la Commission de sécurité du National, si elle ne remet pas en cause le choix technique du Gripen, elle estime que son achat est malgré tout hasardeux, notamment en raison des incertitudes politiques liées au développement de l'avion Suède. Romain Cliva a demandé à la présidente de cette commission, la socialiste zurichoise Chantal Galladé, si elle pensait que le Royaume scandinave restait un partenaire fiable dans cette affaire.
Je ne veux pas m'exprimer sur les décisions de la Suède. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec le président de la commission de sécurité en printemps de la Suède. Et puis, j'ai vu que la Suède, elle compte quand même beaucoup, beaucoup sur la Suisse. Elle a l'impression que la Suisse, elle va aussi payer pour le développement des avions du Gripen. Elle a besoin de la Suisse pour faire ce développement. Alors là, je ne suis pas encore sûre si les décisions vont être comme on pense en Suisse.
Un Suisse sur neuf est un étranger naturalisé. Depuis 1992, la Suisse a accordé 500 000 de nouveaux passeports helvétiques. Les chiffres d'une étude commandée par la Commission fédérale pour l'immigration qui montre aussi que les villes naturalisent plus que les campagnes. Alors que la révision de la loi sur la nationalité sera débattue en septembre, la Commission pour les questions de migration plaide donc pour plus de transparence des procédures et elle défend aussi un droit de cité en fonction de la durée de séjour en Suisse. Esther Coucou.
Un nouveau citoyen suisse sur deux obtient son passeport helvétique avant ses 20 ans, la plupart du temps après avoir accompli ses études dans la Confédération. Jusqu'ici, la majorité des candidats étaient originaires des Balkans, mais ce réservoir s'épuise au profit de citoyens issus des pays voisins de la Suisse. Philippe Vanner, professeur à l'Institut d'études démographiques de l'Université de Genève.
Les Italiennes et les Italiens se sont beaucoup naturalisés, en particulier dans les années 90. Et aujourd'hui, on observe une augmentation très forte de la naturalisation des Allemands. Ils ont ce sentiment d'appartenance à la population suisse. Et en outre, depuis 2007, ils peuvent conserver leur nationalité d'origine comme deuxième nationalité.
Le Conseil national débattra des naturalisations en septembre. Le projet de loi prévoit comme condition préalable la détention du permis C, une restriction critiquée par Philippe Weiner.
La Suisse est beaucoup plus restrictive en ce qui concerne l'attribution des permis C. Dès lors, on se retrouve avec une augmentation de cette population en Suisse depuis 20 ans parfois. Ils n'ont pas les mêmes droits qu'une personne avec un permis C. Ce sont par exemple des requérants d'asile d'Éthiopie qui n'ont pas un statut définitif mais qui sont là depuis 15-20 ans, parfois même depuis leur naissance.
La Commission fédérale pour les questions de migration salue en revanche la possibilité offerte par la révision d'obtenir un passeport helvétique après un séjour de 8 ans en Suisse contre 12 ans aujourd'hui. Si l'ensemble du projet est accepté par le Parlement, il provoquera une diminution de 3500 naturalisations par année, soit 10% de moins qu'aujourd'hui.
Médecins sans frontières a ouvert un hôpital fixe en Syrie.
L'ONG, qui n'est toujours pas autorisée par Damas à travailler dans le pays, a transformé une villa inhabitée en hôpital grâce à l'aide de médecins syriens. Une structure fragile dont l'approvisionnement est compliqué, mais qui est indispensable pour de nombreux Syriens. Céline Tso.
C'est dans la clandestinité que MSF a mis sur pied ce premier hôpital fixe. Jusqu'ici, les médecins de l'organisation venaient opérer quelques jours puis repartaient. Aujourd'hui, c'est dans la zone contrôlée par l'armée syrienne libre, dans un lieu dont elle tait le nom, que l'ONG travaille. En deux mois, elle a opéré 150 personnes et accueilli plus de 300 patients. Anna Novak est chirurgienne française, elle a soigné ses victimes.
On a une majorité d'hommes, des hommes de tout âge. On a des jeunes, on a des moins jeunes. On a également des patients qui ont plus de 50 ans. Les femmes ont représenté environ 10% de nos patients. Les moins de 20 ans, c'est 20%, dont 5% qui ont moins de 9 ans.
Des hommes et des femmes, civils ou combattants, victimes pour la plupart de plaies par balles, de tirs de mortier ou d'éclats d'obus. Avec 12 lits, l'hôpital est souvent surchargé et sa survie est fragile, admet Dounia Dekili, responsable des opérations Syrie pour MSF à Paris.
On est très conscient de la précarité, on va dire, d'une telle structure en termes de sécurité. On compte la maintenir autant que possible, mais on pourrait être évacué parce que pour des raisons de sécurité essentiellement.
Une situation précaire qui ne permet pas de sauver tous les blessés, regrette Anna Novak.
C'est toujours la difficulté entre avoir une structure dans un endroit où l'on peut travailler et avoir l'accès aux patients. C'est vrai que c'est rageant quand on voit des patients qui auraient pu arriver plus tôt, mais du fait de l'insécurité, de la difficulté de déplacement, ne viennent pas plus tôt.
Médecins sans frontières lance donc un nouvel appel aux différentes parties en conflit pour lui faciliter l'accès aux blessés.
Justement, ces différentes parties revendiquent des victoires importantes. Les rebelles affirmaient hier contrôler plus de 60% de la ville d'Alep. L'armée du régime a immédiatement réagi. C'est elle, en fait, qui progresse doucement dans la ville, pas les insurgés. Enfin, sur le plan diplomatique, un vice-premier ministre syrien en visite à Moscou a évoqué de possibles discussions sur une démission du président syrien. Les États-Unis ont réagi en expliquant qu'ils n'y croyaient pas. L'opposition refuse de toute façon de négocier. Le président roumain Traian Băsescu restera chef de l'État, décision hier de la Cour constitutionnelle roumaine. Décision qui signe l'échec d'une tentative de destitution ourdie par la coalition de centre-gauche au pouvoir. C'était la plus grave crise politique du pays depuis 23 ans. La justice a invalidé hier le référendum sur le limogeage du président de centre-droit organisé le 29 juillet. 87% des votants avaient pourtant choisi le départ du président, mais le taux de participation n'était pas suffisant pour que le vote soit valide, expliquent les juges. Le groupe vaudois Koudelski progresse, voit l'avenir plus sereinement, mais reste néanmoins dans le rouge. Le spécialiste des solutions informatiques et électroniques pour la télévision payante et les accès sécurisés a présenté ses chiffres semestriels hier. Et comme d'autres exportateurs suisses dont les transactions se font en dollars, le groupe doit sa progression à la fois à une restructuration internationale et à du change favorable. Estelle Braconnier.
Contrairement aux périodes précédentes, la force du franc n'a eu qu'un impact secondaire. La remontée du dollar a en revanche permis de gagner en compétitivité. L'effet a été probant sur les coûts de production. André Koudelski, le président du groupe.
Un effet de change positif par rapport au dollar a permis encore d'améliorer la situation, et ceci principalement à partir du mois de mai de cette année. On a pris un certain nombre de mesures pour devenir moins dépendant de l'euro. Mais deuxièmement, nous avons fait toute une série d'efforts pour mieux nous positionner dans les pays émergents qui, d'une part, connaissent une certaine croissance, mais surtout qui sont aussi en dollars et le dollar a évolué de façon positive dans l'intermédiaire.
Un effet de change favorable qui pourrait être éphémère. Le groupe table donc sur l'innovation sur le long terme et en Suisse.
Alors aujourd'hui, on est gagnant, mais on doit faire attention dans le sens que ce sont des choses qui fluctuent. Et la meilleure garantie que l'on puisse avoir pour le futur, c'est aussi de trouver des nouvelles activités qui soient particulièrement bien adaptées à une base en Suisse. La cybersécurité est par excellence un secteur d'activité que l'on va conduire depuis la Suisse. Quand il s'agit par contre des marchés émergents, là, on a une structure beaucoup plus répartie, où il y a une partie qui se fait dans les pays développés, mais une autre partie qui se fait dans les pays émergents, déjà pour mieux comprendre quels sont les besoins de ces marchés.
Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe revoit ses prévisions à la hausse et espère retrouver des chiffres noirs en fin d'année.
Des travaux urgents vont démarrer à la fin du mois d'août sur la toiture de la cathédrale de Lausanne. Certaines parties du toit sont fortement dégradées. Les dernières rénovations de l'édifice datent de plus d'un siècle. Devisées à plus de 3 millions de francs, les travaux devraient se poursuivre jusqu'à l'automne 2013 sans nécessiter la fermeture du bâtiment au public. Ariane Hasler.
Dans un premier temps, des filets de protection ont été disposés au pied des toitures du transept nord et des tours de chevet pour éviter les chutes de tuiles. Mais les analyses ont conclu qu'il fallait complètement remplacer la couverture en tuiles de certains secteurs. Ces travaux débuteront donc d'ici quelques jours. Mais ils ne sont qu'un prélude à ceux qui se dérouleront dès 2015 et qui permettront d'achever le cycle de restauration proprement dit de Notre-Dame de Lausanne. Une dernière étape qui concernera principalement le chœur et la tour inachevée, pour un total estimé à 20 millions de francs. Les Lausannois ont l'habitude de voir des parties de la vieille dame de pierre qui domine le quartier de la cité cachées sous des échafaudages. Mais dans le futur, ces rénovations devraient se faire plus discrètes. Le canton réfléchit à un système de maintenance permanent qui permettrait d'éviter de trop gros travaux sur l'édifice médiéval.
Et Gruyère accueille cette semaine la 10e édition de l'Atelier de musique ancienne, un festival unique, puisqu'il tourne autour de la facture d'un instrument. Alors cette année, c'est la viole de gambe qui est à l'honneur. Pendant une semaine, 6 amateurs travaillent sous la direction d'un luthier invité. Et en résonance à ce travail, 3 concerts auront lieu vendredi, samedi et dimanche. Philippe Motterio, fondateur du festival.
Le thème, c'est la musique de Jean-Sébastien Bach. Tout d'abord pour la viole de gambe, puisque c'est l'instrument qu'on construit. Bach a écrit 3 sonates pour la basse de viol, qui sont des sonates magnifiques, peu jouées, moins jouées certainement que les œuvres pour le violon ou pour le violoncelle, ou bien sûr pour le clavecin, puisque l'instrument est plus rare. Mais c'est du très grand Jean-Sébastien Bach. Voilà. Et le concert final, c'est dimanche à 5h. Là, c'est un projet d'assez longue haleine, c'est-à-dire qu'on a fait construire un instrument pour ce concert, un violoncelle à 5 cordes, aux dimensions réduites, un violoncello piccolo, pour lequel Bach a beaucoup écrit. Il aimait beaucoup cet instrument qui a aujourd'hui disparu. Il a écrit l'une de ses suites, la dernière, la plus belle, pour cet instrument. Et le concert est construit ainsi. Il y a 13 airs piqués dans l'une ou l'autre de ses cantates. Voilà.
Des propos recueillis par Delphine Gendre.
On parle sport maintenant et du football avec le FC Bâle, mal placé pour une qualification pour la Ligue des Champions.
Ouais, les Bâlois ont perdu 2-1 hier à domicile contre les Roumains de Cluj. Ils devront donc marquer au moins 2 buts et ne rien encaisser au match retour la semaine prochaine. Mais pourtant hier soir, le FC Bâle avait ouvert la marque, Bernardin Alemann.
Malgré la chaleur, le FC Bâle n'avait pas prévu une telle douche froide et il a ouvert lui-même le robinet. Dans un match capital, lorsqu'on connaît l'enjeu, il n'a pas joué juste. Alors qu'il avait les moyens de maîtriser le match, qu'il le faisait en menant 1-0 et qu'il était passé tout près d'inscrire le deuxième, il a oublié de défendre. L'entraîneur Heiko Vogel ayant décidé de ne faire entrer Alex Frey qu'au dernier moment, Bâle aurait alors dû gérer plus que de tenter de marquer sans en avoir les moyens offensifs avec le seul Streller en pointe. Et lorsque les contre-roumains ont eu raison en 2 reprises d'une timide défense baloise, peu à son avantage, Park, Sauro, Steinhofer, totalement pris de vitesse par Sougou, le champion suisse n'a pas su réagir et aurait tout aussi bien pu en encaisser encore. Pour n'avoir donc pas su serrer les rangs suffisamment, Bâle est condamné à s'imposer en Roumanie en marquant au moins 2 fois mercredi prochain, faute de quoi il ne pourra pas budgéter cette année les millions de la Ligue des Champions.
Enfin, pour terminer, un guide pour franchir le fossé des générations. Il est écrit par 2 professeurs d'université américains pour leurs collègues, car les jeunes qui entrent dans les hautes écoles cette année sont nés en 1994. Et il faut donc que les enseignants aient conscience des références datées. Quelques exemples. Ces jeunes n'ont jamais vu de billets d'avion, ni de valises qui n'avaient pas de roulette. Ils regardent la télévision partout, sauf sur une télévision. Pour eux, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, a toujours été mort. Et Robert De Niro, eh bien Robert De Niro, c'est avant tout le retraité de la CIA des films Mon beau-père et moi, et pas le jeune Vito Corleone dans Le Parrain. Comme quoi, tout fout le camp définitivement.
Je me sens pas concerné, je suis né en 1993. Merci Valérie. 6h15, on prend un rapide coup d'œil sur la météo. Les orages de la nuit n'ont pas beaucoup rafraîchi l'atmosphère. Il fera encore 29 à 33 degrés aujourd'hui sous un ciel dégagé. Retour des cumulus dans l'après-midi avec un risque d'orage ce soir.